Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus de 60 000 enfants des FARDC en situation déplorable à Beni au Nord Kivu. 50% d'entre eux ne sont pas scolarisés. L'alerte est de l'Association des enfants des soldats au front pour la paix dans un rapport semestriel publié jeudi à Beni. Cette association lance un SOS en faveur de ses enfants. Examen d'État édition 2025. Les épreuves hors session se poursuivent sans désemparer à travers la RDC. Au Maniema cependant, les deux premiers jours d'examen ont été perturbés par des Wazalendo au centre de Kayuyu, territoire de Pangi, signale le ministre provincial de l'Éducation à Radio Okapi. Et puis, mon quartier, ma responsabilité. C'est la campagne en cours à Kinshasa lancée par l'ONG Culture Céleste, Paix Mondiale, Restauration de la Lumière. Il s'agit de sensibiliser les habitants à l'importance d'un cadre de vie propre, explique le responsable de la communication, Magloire Bijika, et l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous écouter à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Ici, nous apprenons que plus de 60 000 enfants des militaires des FARDC vivent dans une situation de grande vulnérabilité, selon un rapport semestriel publié le jeudi 5 juin par l'Association des enfants des soldats au front pour la paix, basée à Beni. 50% de ces enfants ne sont pas scolarisés et peinent à subvenir à leurs besoins. Certains vivent dans la rue, tandis que d'autres sont hébergés dans des centres temporaires ou pris en charge par des familles d'accueil. Serge Massimango, coordonnateur de cette association, plaide ici pour l'amélioration des conditions de vie de ses enfants des militaires. Il est joint par André Kitenge.
À Ville de Beni, nous avons trouvé que les enfants des militaires soient en situation de difficulté et de vulnérabilité, car parmi eux, il y a des enfants non accompagnés, des enfants sans abri, des enfants de la rue, il y a des enfants exploités économiquement, les enfants orphelins des pères et des mères, les enfants exploités sexuellement, violés ou abusés, et d'autres enfants passent la journée en train de mendier pour trouver quelque chose à manger. Après cette enquête, nous avons trouvé que les enfants des militaires sont dans un état de vulnérabilité sur les plans éducatifs, alimentaires, sanitaires et de logement. Et dans ces rapports, nous avons proposé certaines pistes de solutions pour atténuer tant soit peu les calamités que traversent ces derniers. Au gouvernement, nous demandons de venir en aide aux enfants des militaires et de matérialiser l'effort de guerre, car nous, les enfants des militaires au front, nous ne voyons pas encore cet effort de guerre. Et aux partenaires et ONG, nous les demandons de voir les contextes et de n'exclure aucune couche de la population et de venir aussi en aide à cette catégorie.
Radio Okapi a tenté en vain de joindre le directeur intérimaire du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, SECAS, de la garnison du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord des FARDC. Au sud Kivu voisin, certains éléments de la police nationale congolaise ayant fui la guerre vers Bunyakiri dans le territoire de Calais se déclarent abandonnés par le gouvernement central. Leurs soldes aussi bien que leurs primes ne sont pas payées depuis janvier jusqu'à ce jour. Du coup, ces policiers mènent une vie difficile à Bunyakiri. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Leurs dépendants sont obligés de se livrer aux travaux champêtres pour obtenir de quoi manger. L'espoir de percevoir leur salaire et ou leur prime s'amenuise au fur et à mesure que le nombre de mois s'accumule. La plupart de ces policiers sont partis des territoires de Calais et de Kabaré, voire de Bukavu au plus fort moment de la guerre, qui opposait les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ils ont pris la direction de Bunyakiri en attendant le retour à leur poste d'attache qu'ils espéraient rapide, mais voilà aujourd'hui 5 mois, jour pour jour, Calais, Kabaré, le littoral du lac Kivu et la ville de Bukavu demeurent sous contrôle de la rébellion. D'après les dires de ces policiers, l'argent destiné au paiement de leur salaire traîne à Uvira entre les mains de leurs autorités. Notre tentative de contacter la hiérarchie provinciale de la police demeure sans suite. Les policiers qui se disent lésés sollicitent l'intervention de Kinshasa pour qu'ils soient payés de la même manière que les militaires qui sont avec eux dans la région de Bunyakiri et qui obtiennent directement leur solde par voie aérienne.
L'ambassade de la RDC à Bujumbura s'est dit indignée par la collaboration annoncée cette semaine à Goma entre les autorités rebelles de l'AFC M23 et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. Même réaction de la part de Tumba Luaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui confirme l'information. Dans cette lettre adressée mardi 3 juin au secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassade réagit à la rencontre lundi dernier entre la délégation du mécanisme conjoint et les autorités de la rébellion de l'AFC M23. Explication avec Benjamin Mudumbi.
La délégation conduite lundi 10 juin par Lac Choulwe, coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification élargie, s'est entretenue sur les questions de paix, sécurité et stabilité avec le gouvernement provincial rebelle du Nord Kivu, indique que les services proches de la rébellion. Selon l'ambassade de la RDC à Bujumbura, cet agissement est plutôt de nature à encourager la stabilisation de la sous-région par des mouvements rebelles, contrairement à l'esprit de l'Union africaine et des organisations œuvrant pour la paix dans la région. L'ambassade estime que la RDC est en droit d'exiger des explications de la part du secrétariat exécutif de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, afin que ce dernier puisse éclairer son délai quant à sa position vis-à-vis du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC M23.
Dans l'actualité aussi, débutées le 2 juin dernier, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 se déroulent bien dans la province du Maniema, notamment en dehors de quelques cas isolés. C'est ce qu'affirme le ministre provincial de l'Éducation à Radio Kapi. Il cite le cas du centre de Kayuyu dans le territoire de Pangui, où les deux premiers jours d'examen ont été perturbés par des troubles attribués au Wazalendo, mais dans les autres centres, rien à signaler. Florence Kizalunga.
Le ministre provincial de l'Éducation et certains superviseurs saluent le bon climat qui caractérise ces examens, hormis la situation du centre de Kayuyu, Mera Marungu Useni.
L'examen de la dissertation s'était bien organisé dans tous les territoires de la province du Maniema. Sauf qu'il y avait un cas qui est un peu malheureux, c'est au niveau du centre de Kayuyu, dans le territoire de Pangui, où il y a eu des problèmes entre nos frères Wazalendo avec les forces loyalistes. Là, ça a créé un petit problème, d'autant plus que parmi les candidats à cet examen, un quart de candidats n'a pas participé à l'examen. Trois quarts ont quand même participé à l'examen, ça on félicite beaucoup, et surtout avec les efforts du gouverneur de province.
Le finaliste qui avait peur au début parle des questions abordables. L'un d'eux, Balissisi Placide Shalom.
Jusque-là, les examens de la hors session, ça se passe très bien. Au début, on avait peur. Mais quand on nous a donné les items, on a vu que ce sont des matières vies en classe. En tout cas, ça se passe bien jusque-là.
Signalons que cette année, la province du Maniema, avec ses deux provinces éducationnelles, aligne plus de 26 000 candidats finalistes. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique appelle les chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais à participer au troisième forum du génie scientifique congolais prévu à Kinshasa au mois d'août prochain. Dans un message leur adressé hier jeudi, Gilbert Kabanda s'est dit convaincu que la RDC a des génies capables de l'aider à recouvrer sa place de grande puissance économique africaine. On écoute le ministre Gilbert Kabanda dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
L'histoire nous l'apprend, qu'il n'existe au monde aucune nation grande, aucune nation puissante sans recherche scientifique, sans innovation technologique. Vous avez démontré depuis les deux dernières années qu'il y a du génie dans notre pays. Et le président de la République, comme le gouvernement, sont tous de plus en plus convaincus qu'il y a effectivement du génie. Du génie présent au Congo, mais aussi du génie expatrié. Tous ces génies présents au Congo, expatriés dans la diaspora, sont invités à participer massivement au prochain forum de notre génie scientifique que nous ouvrons au mois d'août comme les deux premiers forums.
Dans l'actualité aussi, à Kinshasa, le ministère de l'Environnement a lancé en collaboration avec le groupe UTEX Africa les travaux d'aménagement de la baie de Ngaliema. C'est en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. Ce projet d'aménagement de la baie de Ngaliema vise à préserver l'être humain, les écosystèmes et la biodiversité, tous menacés par des activités humaines, notamment par des constructions illégales dans cet espace, d'après le directeur général du groupe UTEX Africa. Je propose un extrait de la déclaration de Jean-Philippe Wasterschut au micro de Tati Mapoukou.
Ce qui a été vraiment le déclencheur pour nous et je pense pour les services de Madame la Ministre, c'est le détournement de la rivière Makelele et le fait que maintenant, comme vous l'avez vu dans les vidéos, le fait que la rivière Makelele ne sait même plus se jeter dans le fleuve. Elle n'a pas d'autre possibilité que de faire un angle droit et de se jeter dans le fleuve à contre-courant. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y aura une crue du fleuve Congo, il va remplir l'avenue Makelele qui, par Ferrebon, va envahir les populations et les zones en amont de la zone de la baie de Ngaliema. Donc je crois que c'est d'abord une satisfaction pour redonner un poumon, de l'air libre pour la ville, un espace de respiration pour le fleuve Congo, mais également préserver des vies et des dégâts humains en amont et sur les berges de la rivière Makelele. Donc c'est un bien collectif qu'on est en train de sauver et il faut que tout le monde le comprenne.
Deux projets transfrontaliers visant à renforcer la stabilité, la résilience, la coopération, à réduire les coûts logistiques et à stimuler le commerce dans les régions frontalières ont été lancés hier jeudi au cours d'un atelier à Kinshasa, mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations OIM. Ces projets se veulent un espace de la résilience des zones frontalières entre la RDC et la République d'Ouganda. Bertin Kassiama pour les détails.
Réduire les coûts logistiques et stimuler les commerces dans les régions frontalières, tel est l'objectif de ces deux projets financés à une valeur de 25 millions par l'Union européenne. Deux projets intitulés « Renforcement de la coopération transfrontalière, de la stabilisation et de la résilience des frontières, puis frontières pacifiques et résilientes », Alexandre Sepson est la chef de l'Organisation internationale pour les migrations en RDC.
Pour nous, c'est de réunir les deux gouvernements. On a des responsables du gouvernement d'Ouganda qui sont venus ici à Kinshasa aujourd'hui pour l'événement, avec des représentants du ministre des Affaires étrangères congolais aussi, d'écouter un peu les techniciens et vraiment de faciliter des discussions qui vont transmettre impact sur le terrain. Et ce programme, c'est avec focus Ituri. Nous voyons qu'on a beaucoup de capacité d'aider les populations des deux côtés de la frontière pour améliorer la commerce et aussi de construire un sentiment de paix entre les deux voisins, qui sont toujours très amicales aussi.
Cet atelier a connu la participation des hauts responsables du gouvernement ougandais et congolais, de la délégation de l'Union européenne, des ministères sectoriels et des membres de la société civile de deux pays.
Direction le Kasaï oriental. Près de 2,5 tonnes des poissons tilapia sont en train d'être séchés pour une consommation locale. C'est la première récolte des poissons organisée dans un étang pilote, entretenu techniquement selon les normes d'élevage des poissons par les jeunes de la brigade de l'Institut africain de leadership agricole au niveau de Bafon, au quartier Lukelenge, à Mbujimayi, dans la commune de la Mouya. La cérémonie de lancement de cette récolte des poissons a été présidée par le chef du bureau de la division provinciale de l'agriculture, pêche et élevage, Esther Ndalafina. Reportage.
5 femmes qui évoluent dans le domaine de la pisciculture apprennent le salage des poissons tilapia pêchés depuis lundi dernier dans un étang pilote entretenu selon les normes d'élevage des poissons par les jeunes de la brigade de l'Institut africain de leadership agricole à Ali. Explication de Jeanne Kalengaï, bénéficiaire de la formation.
On est venu nous apprendre comment saler les poissons. On nous a montré comment ouvrir les poissons, mettre le sel. Ça devient poisson salé. Nous les conservons longtemps parce qu'on n'a pas de congélateur. Nous les félicitons.
La récolte de ces tilapia s'est effectuée en présence du chef de bureau de la division provinciale de l'agriculture, pêche et élevage.
Nous venons à la récolte, nous venons de faire la remise symbolique des aliments aux sculpteurs. C'est une activité très louable parce que chez nous, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, le secteur de pêche et élevage, c'est le maillon le plus faible.
Ingénieur Ismaël Ilunga, chargé de la production animale et pisciculture au niveau de la brigade à Ali, s'est dit satisfait du travail abattu.
Les étangs qui étaient de ce côté étaient sous-exploités, abandonnés, aussi mal construits. Nous avons mis en place cet étang. Avec la nouvelle technologie, avec les bonnes pratiques, nous avons aussi montré aux psychiatres comment ils doivent ensemencer et nourrir les alevins.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Décès de l'ancien président zambien Edgar Lungu. Il a dirigé la Zambie entre 2015 et 2021. Il est décédé hier à l'âge de 68 ans dans une clinique de Pretoria en Afrique du Sud. L'annonce de sa mort a été faite par sa famille et son parti politique. Edgar Lungu était arrivé au pouvoir en Zambie en 2015 après le décès du président Michael Sata. Il avait ensuite été réélu en 2016 pour un second mandat avant de quitter la présidence en 2021, battu par l'opposant Hakainde Hichilema lors d'une élection largement remportée par ce dernier.
L'invité.
Nous recevons, comme annoncé, Magloire Bijika, responsable communication au sein de l'ONG Culture Céleste, Paix Mondiale, Restauration de la Lumière. Il nous parle de la campagne « Mon quartier, ma responsabilité » qui vise à sensibiliser les habitants à l'importance d'un cadre de vie propre à Kinshasa. Il s'entretient avec Ronéline Tibonera.
Magloire Bijika, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous venez de lancer les programmes législatifs pour la paix de la DPC 2025. Dites-nous en quoi cette activité ou en quoi ce programme est intéressant.
Alors, nous sommes l'ONG HWPL et l'activité que nous avons organisée, c'est en commémoration de la 12e anniversaire de la déclaration de la paix mondiale. Alors, nous avons organisé cette activité pour sensibiliser la communauté ainsi que la société à travailler pour entretenir la nature, voilà, dont nous faisons partie. Alors, cette nature doit être conservée et protégée afin que nous puissions bien vivre, nous ainsi que tous les membres qui composent cette nature, n'est-ce pas?
Vous parlez de mon quartier, ma responsabilité,
oui.
Agissons pour un cadre de vie propre. Pourquoi ce thème à Kinshasa?
C'est pour sensibiliser le peuple congolais. Alors nous connaissons que si la nature n'est pas bien entretenue, nous risquons aussi de souffrir, n'est-ce pas? Alors si cette nature n'est pas bien protégée, nous risquons aussi de vivre dans un environnement qui n'est pas sain. Et cela entraînera de maladies et aussi la mort. Et si nous ne sommes pas dans un environnement propre, la santé également ne peut pas bien se développer. C'est pourquoi nous voulons sensibiliser toutes ces personnes à travailler et aussi à bien entretenir leur quartier, aussi leur environnement en général.
L'assainissement à Kinshasa, c'est tout un problème. C'est beaucoup de quartiers qui connaissent des problèmes d'immondice. Un programme pareil pour s'étendre sur combien d'années ou de mois?
Ce programme n'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est un programme qui va être continuel. Alors c'est pour inculquer aux personnes la notion de la propreté. Alors nous devons entretenir notre quartier, nous devons entretenir notre environnement. C'est pourquoi ce programme sera mensuel. Alors c'est pour inculquer, comme je venais de le dire, la notion de la propreté en tout un chacun.
Comme qui dirait que les jeunes ici ne jouent pas leur rôle en matière d'assainissement?
Si, il y a certains, bien sûr, qui s'efforcent au moins de bien conserver la nature. Cependant, si nous laissons seulement cette tâche à quelques-uns, nous ne pourrons pas aussi gagner ce terrain. Alors nous connaissons que la ville de Kinshasa souffre de beaucoup de problèmes d'inondation et aussi des problèmes de propreté. Il y a beaucoup de endroits qui sont mal entretenus. Cependant, l'effort personnel ne pourra pas guérir cet environnement. Alors nous devons travailler de manière collective afin d'aider à ce que cet environnement soit rendu propre.
Les caniveaux qui sont curés, est-ce qu'ils seront une solution à long terme par rapport à ce que nous connaissons comme problème, l'inondation et d'autres?
Alors je dirais premièrement non, mais cependant l'effort, le premier pas compte avant tout. Alors si nous faisons ceci, c'est pour aussi interpeller le gouvernement à appuyer de tels projets afin que lorsqu'ils verront de tels actes, qu'ils puissent également y contribuer.
Le problème de salubrité, ce n'est pas tout simplement Kinshasa, mais c'est aussi à travers la République. S'il faut en parler, est-ce qu'il y a des stratégies ou des secrets que vous livrerez à d'autres jeunes se trouvant dans d'autres villes de la RDC?
Ok, alors moi le secret personnel, c'est que moi également, je me suis donné comme mission d'entretenir premièrement mon quartier. Alors la mission part du fait de commencer chez soi. Alors pas de viser d'abord les autres endroits, mais chez soi. Alors si chacun prend la responsabilité de nettoyer son environnement propre, le reste se fera au fur et à mesure. Alors c'est un programme pour sensibiliser au fait que chacun puisse commencer à travailler pour entretenir son environnement, c'est-à-dire son quartier, sa maison. Autant que nous faisons, nous nous entretenons pour notre bien corporel, nous devons également le faire pour la nature.
un dernier message à tous ceux-là qui vous écoutent à travers la radio Papi.
Merci. Alors, l'ONG HWPL vous adresse ce message pour vous faire savoir que nous sommes là et que nous voulons travailler pour inculquer la paix et que nous voulons à ce que tout le membre, tout le peuple congolais puisse travailler en commun accord pour conserver la nature. Alors, si nous voulons vivre en bonne santé, nous devons également conserver cette nature auquel nous sommes partisans.
Magloire, merci.
Merci beaucoup.
Responsable de la communication au sein de l'ONG Culture Céleste, Paix Mondiale, Restauration de la Lumière, Magloire Bijika répondait aux questions de Ronelli Ntibonera. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision d'Alain Rong Mouchinj à la mise en onde Polydor Basunga. Merci d'avoir été des nôtres.